Allemagne. La première économie du continent serait-elle responsable de la crise? Ce qui, à la gauche de la gauche, entre guillemets, rend l'Allemagne responsable de tous les maux. Après une phase pendant laquelle nombre d'hommes politiques ont encensé le prétendu modèle économique allemand, actuellement la mode est plutôt à le rendre responsable de tout ce qui va mal dans l'Union européenne, UE. La crise, le chômage, les déficits extérieurs, l'euro trop faible ou trop fort, à peu près tous les maux seraient de la faute de la chancelière Angela Merkel et profiteraient à l'Allemagne « égoïste » entre guillemets, qui ne pense qu'à ses intérêts. Entre guillemets. Passons sur le fait que ces qualificatifs moraux sont ridicules dans la bouche de chantres du système capitaliste, tout entier bâti sur la défense d'intérêts privés et égoïstes, entre guillemets. Il faut dire que leurs arguments simplistes, bêtement politiques et à géométrie variable, sont choisis dans le seul but de servir leur démonstration. Répétés sans arrêt, un certain nombre de ces lieux communs, dont l'objectif ultime est de dédouaner la bourgeoisie et les hommes politiques français, contribue à répandre le poison nationaliste. À la gauche de la gauche, Frédéric Lordon, membre des économistes atterrés, entre guillemets, et qui se réclame toujours de la lutte de classe, défend l'idée qu'il faut ou sortir de l'euro ou en faire sortir l'Allemagne, et déclarer, entre autres perles, en avril dernier sur France Inter, ouvrez les guillemets, nous sommes passés à l'époque, lors de l'introduction de l'euro, sous les fourches caudines des gouvernements allemands, et nous y sommes encore. L'Allemagne est cinglée. Elle veille, comme aucun autre pays en Europe, à l'application stricte, rigoriste, sans la moindre tolérance, des orthodoxies monétaires. L'Allemagne se sait entourée par les pouilleux du Sud. Elle n'accordera jamais qu'on entr'ouvre la fenêtre pour prendre un peu d'air. Gommant toutes les différences de classe et de situation sociale, Frédéric Lordon choisit de se réclamer d'un « nous » entre guillemets illusoire, opposé à l'Allemagne. Patrons et ouvriers de France subissant le même destin, nous serions tous soumis à l'Allemagne. Il poursuit, ouvrez les guillemets, la croyance monétaire en Allemagne, une croyance partagée par une très large fraction du corps social allemand, où la monnaie a un caractère de talisman, est érigée en réceptacle du caractère national allemand. La sanctuarisation de la chose monétaire par l'Allemagne restera toujours. Fermez les guillemets. Foin de la lutte de classe, c'est donc le peuple allemand lui-même qui aurait érigé la monnaie au rang de divinité et lui voue un culte. Le lendemain, Frédéric Lordon explique sur la même radio que sortir de l'euro signifiera, ouvrez les guillemets, se débarrasser de la camisole de force des politiques d'austérité, fermez les guillemets, et permettra la, ouvrez les guillemets, restauration de la souveraineté démocratique, fermez les guillemets. Ainsi donc, l'austérité est imposée à Hollande et Valls par l'Union européenne. Et avant l'euro, c'était le règne joyeux de la souveraineté démocratique, autrement dit, les classes populaires avaient le pouvoir. Lordon n'est pas seul à gauche à faire entendre ce son de cloche. Jean-Luc Mélenchon, du Front de gauche, est devenu coutumier de saillies brutalement chauvines et provocatrices. Lui qui n'a pas hésité à déclarer, ouvrez les guillemets, les Allemands c'est un modèle pour ceux qui ne s'intéressent pas à la vie. Mais pour ceux qui s'intéressent à la vie, personne n'a envie d'être Allemand. Ils sont plus pauvres que la moyenne, ils meurent plus tôt que les autres, ils n'ont pas de gosses, et leurs immigrés foutent le camp parce qu'ils ne veulent plus vivre avec eux. C'est dire, fermez les guillemets. Il récidivait quelques mois plus tard, octobre 2013, ouvrez les guillemets, en parasitant toute l'Europe, en nous contraignant à un système économique et politique épouvantable, ils sont en train de pomper le sang de toute l'Europe. L'objectif, ce n'est pas d'imiter l'Allemagne, mais de dégermaniser l'Europe. Fermez les guillemets. Mélenchon use de la grosse artillerie nationaliste pour faire parler de lui, et ce faisant, il dédouane Hollande, son gouvernement et, au fond, les capitalistes d'ici, puisque ce ne sont pas eux qui décident, mais la méchante Allemagne. L'exemple de l'Allemagne pour nous convaincre de nous serrer la ceinture. D'autres hommes politiques, plus proches des milieux gouvernementaux, défendent en partie les mêmes conceptions, mais plus discrètement, en gardant l'air respectable. Deux ou trois idées reviennent sans cesse sous leurs plumes. L'une est que ce sont les salaires très réduits en Allemagne dans certaines branches, la faible indemnisation des chômeurs, durée et montant, l'augmentation de la précarité, en bref, les reculs subis par la classe ouvrière qui auraient rendu l'économie allemande compétitive. De la part de tous ces gens-là, cela veut dire « Préparez-vous, il va falloir faire la même chose ici ». Ce qui est presque comique, c'est que gouvernement et patronat de France, qui n'ont que les mots « coût du travail » et « compétitivité » entre guillemets à la bouche pour faire accepter ici le recul du pouvoir d'achat et des conditions d'existence, s'insurgent contre les bas salaires en Allemagne et contre l'égoïsme des dirigeants allemands qui, s'ils consentaient à payer mieux les travailleurs outre-Rhin, leur permettraient de consommer davantage de marchandises française. Il s'exprime comme si la classe dirigeante allemande choisissait collectivement de payer mal ses ouvriers pour restreindre volontairement la consommation intérieure et par là nuire aux importations en provenance des pays européens. En réalité, chaque patron essaie de payer ses entre guillemets ouvriers le moins possible, mais voudrait pour vendre ses marchandises que son concurrent verse, lui, des salaires élevés. Et puis, il y a les records d'exportation allemande. L'excédent commercial qui ne cesse de croître ces dernières années dans ce pays, véritable épine dans le pied de dirigeants français confrontés au déficit de leur balance commerciale. Leur porte-parole réclame le plus sérieusement du monde à l'Allemagne, c'est-à-dire au patronat allemand, de penser à l'intérêt commun et de réduire ses exportations pour faire une place à ses concurrents. Parmi les idées répétées sans cesse, il y a celle selon laquelle l'Allemagne, première puissance économique du continent, dicterait ses conditions aux 27 États membres. La France passe alors du statut de puissance impérialiste, faisant presque jeu égal avec l'Allemagne, à celui de victime subissant ses diktats. D'ailleurs, de diktat à blitzkrieg, le vocabulaire allemand des politiques français est en général celui lié à la guerre. Emmanuel Todd, qui en 2012 vantait ardemment le « hollandisme révolutionnaire », entre guillemets, parle ainsi de la mainmise du patronat allemand sur l'État français. Il dessine un diagramme tout en le commentant. Ouvrez les guillemets. En haut, le patronat allemand. Juste en dessous, décalé, Merkel, préposée à la gestion des protectorats européens. Directement aux ordres du patronat allemand, la Banque centrale européenne. Aux ordres de la BCE, les banques françaises. Sous le contrôle des banques, les inspecteurs des finances de Bercy, avec comme attaché de presse Pierre Moscovici. Et tout en bas, François Hollande. Je ne trouve à Hollande aucune fonction identifiable, donc j'inscris rien. Les banques et entreprises françaises seraient donc placées sous les ordres du patronat allemand et de Merkel, tandis que le président est, lui, complètement impuissant. Si la vision est assez pratique pour dédouaner les dirigeants français, elle rend encore moins convaincants les discours lénifiants des mêmes sur l'Europe voués à assurer la paix du continent. D'ailleurs, Todd continue ainsi, ce qui, appliqué à peu près à n'importe quel autre pays, ne serait plus politiquement correct. Ouvrez les guillemets. Donc, évidemment, l'Allemagne est le problème. Mais l'Allemagne, qui a déjà foutu en l'air deux fois le continent, est l'un des hauts lieux de l'irrationalité humaine. Son obstination à imposer l'austérité, qui fait de l'Europe le trou noir de l'économie mondiale, nous impose une question. L'Europe ne serait-elle pas, depuis le début du XXe siècle, ce continent qui se suicide à intervalles réguliers sous direction allemande? Oui, un « principe de précaution » entre guillemets, doit être appliqué à l'Allemagne. Ce n'est pas être un salaud xénophobe de le dire. C'est du simple bon sens historique. Fermez les guillemets. Laissons-lui la responsabilité de décider s'il est un salaud xénophobe, entre guillemets, et notons avec quelle légèreté, quelle facilité Todd, Mélenchon et tant d'autres convoquent le terrible passé nazi pour appuyer leur assertion contre l'Allemagne. Comme il leur est facile d'être nés du côté des bons et des vainqueurs. Quant au recul subi par les classes populaires, ce ne sont donc pas héros ou valses qui sévissent, font voter pacte de compétitivité et de responsabilité, prélèvent sur la sécurité sociale pour donner aux riches. Ce ne sont pas PSA, Bouygues ou Michelin qui licencient et intensifient l'exploitation, pas Gattaz qui rêve tout haut d'introduire un SMIC au rabais pour les jeunes. Mais non, derrière tout cela, une Allemagne obsessionnelle tirerait les ficelles. Ainsi, certains de ces hommes politiques, commentateurs, spécialistes autoproclamés, sont capables de nous expliquer que le bas niveau des salaires en Allemagne est un vrai problème, que c'est déloyal vis-à-vis des voisins, et en même temps de répéter qu'il est urgent de baisser les salaires ici. À la fois de nous dire que l'économie européenne crève de trop d'austérité, et qu'il faudrait ici baisser encore le niveau de vie des ouvriers, retraités, chômeurs ou handicapés. Ceux qui se plaignaient qu'il n'y ait pas de salaire minimum en Allemagne, permettant aux abattoirs, boucheries industrielles ou entreprises agricoles d'exercer un dumping social, mettant en danger des entreprises en France, nous annoncent doctement, maintenant que l'introduction d'un salaire minimum généralisé à l'Allemagne a été décidée, que ce sera une catastrophe, puisque la mesure coûterait 100 000, 200 000 ou pourquoi pas 500 000 chômeurs supplémentaires outre-Rhin. Des études prétendument sérieuses expliquent que les entreprises ne pourront pas payer 8,50 € brut de l'heure en 2017 et qu'il leur faudra donc licencier. Ces gens-là ne se préoccupent des licenciements que lorsqu'ils leur servent d'argument. Or, justement, ils sont en croisade pour démolir le SMIC en France. Qu'ils encensent ou décrivent le pays voisin, leurs arguments sont à géométrie variable, ils n'ont aucune consistance, c'est uniquement en fonction de ce qui les arrange qu'ils vont marteler une chose ou son contraire. Quelques raisons de l'apparente santé de l'économie allemande. Les récriminations contre l'Allemagne, actuellement l'économie la plus puissante d'Europe, n'ont au fond rien de surprenant. Pour les capitalistes, ce sont toujours les autres qui sont responsables de la crise. Ils se plaignent de leurs concurrents dès qu'ils sont plus forts qu'eux, et c'est ce qu'il faut entendre derrière les commentaires évoquant un volume d'exportation « monumental » entre guillemets, des investissements à l'étranger d'un niveau « insolent » entre guillemets, ou un taux de chômage à faire pâlir d'envie entre guillemets. Tout de même, semblent dire les capitalistes, tout irait mieux s'il n'y avait pas les automobiles Volkswagen ou Mercedes, la technologie Bosch et les machines-outils Liebherr. Certes, mais voilà, l'économie entière est construite sur la guerre de tous contre tous, où le plus fort, d'un jour, peut être celui qui s'écroule en premier. Et cette compétition, les dirigeants ne trouvent à s'en plaindre que lorsqu'ils n'en sortent pas vainqueurs. Oui, les bourgeois sont en concurrence, mais les travailleurs n'ont aucun intérêt à souhaiter à leur patron de faire les meilleurs profits. L'intérêt de la classe ouvrière est d'instaurer le meilleur rapport de force entre elle et la bourgeoisie, tandis que l'unité, entre guillemets, nationale avec la bourgeoisie ne peut que la desservir. Quant aux raisons qui font que l'économie allemande semble aujourd'hui tellement dominer en Europe, elles sont nombreuses, dont certaines anciennes. Depuis que l'Allemagne a émergé à la fin du XIXe siècle, elle se caractérise par son dynamisme économique. Elle est partie alors d'un autre niveau que ses voisins, plus anciennement industrialisés, mettant en place directement des usines aux installations modernes qui concentraient un grand nombre d'ouvriers. Exploitation des mines, sidérurgie, métallurgie et banques la transformèrent immédiatement en puissance économique qui, au travers de cartels intégrant différentes branches, développa bientôt les nouvelles industries liées à la chimie, la construction mécanique, l'énergie et l'électricité. Mais tandis que le pays, dont la masse des capitaux s'était accrue de manière vertigineuse, avait besoin d'en exporter dans d'autres régions du globe, les vieux impérialismes qui s'étaient partagés le monde n'avaient nulle intention de céder une part du gâteau. Ce fut la Première Guerre mondiale qui se solda par la défaite pour l'impérialisme allemand. Il eut du mal à se relever, étranglé par les conditions du traité de Versailles. Le Royaume-Uni et la France, puissance coloniale qui régnait sur de véritables empires et en arrachait une bonne partie de leurs profits, le condamnaient à étouffer à l'intérieur de ses frontières. Loin de régler le problème de la concurrence entre impérialismes, l'issue de la guerre le raviva. Les États-Unis restèrent relativement à l'écart des négociations entre anciens belligérants européens, voulant surtout éviter que l'un d'eux soit trop puissant, susceptible de leur faire de l'ombre au moment où ils sortaient du conflit en véritable vainqueur. L'Allemagne ne redevint pas réellement compétitive entre les deux guerres, à part justement dans l'industrie de guerre. Puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Europe dévastée, nombre de dirigeants, y compris américains, projetèrent de morceler l'Allemagne et de la détruire plus encore pour la ramener des décennies en arrière. Un secrétaire d'État, Morgenthau, proposait de démanteler entièrement l'industrie et de permettre uniquement l'agriculture. Finalement, il n'en fut rien, et s'il fallut de nombreuses années pour reconstruire les habitations des quartiers ouvriers, l'industrie était moins sévèrement atteinte. Dès les années 1950, le pays, même divisé, renouait avec un dynamisme économique impressionnant. L'Allemagne, avec ses villes transformées en champs de décombres, ses immeubles d'habitation dont il ne restait que les carcasses, ses voies de communication coupées, ses habitants hébétés en proie à la famine et à la soif, ce pays qui présentait nombre de traits d'un pays sous-développé n'en était pourtant pas un, tant le degré de développement d'une grande puissance ne se mesure pas seulement au développement matériel en un instant donné. Dans cette Allemagne de l'année zéro, dont les habitants se terraient dans les caves, dans ces villes sans électricité où la production était quasiment arrêtée, il y avait parmi les survivants des millions de techniciens, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, de chimistes ou d'électriciens, forts de leur savoir-faire, de leurs compétences professionnelles, techniques et culturelles, qui allaient bientôt reconstruire les infrastructures, une industrie de pointe et des villes modernes. Ces avantages ont été favorisés par le contexte politique. Contrairement à 1918, les États-Unis jouèrent un rôle déterminant. Avec le début de la guerre froide, ils changèrent complètement de politique dès 1946, comprenant la nécessité d'arrimer solidement la République fédérale d'Allemagne, RFA, au camp occidental, ce qu'ils firent contre l'opposition notamment de la France. Cela passait par le redressement économique de l'ancien adversaire, car sans cela, comment convaincre une population affamée, déprimée, sans perspective d'amélioration, de prendre place dans le giron occidental plutôt que dans celui de l'Union soviétique? L'Allemagne de l'Ouest fut soignée et devint l'un des bénéficiaires des aides sonnantes et trébuchantes du plan Marshall. Elle formait la dernière frontière avec le bloc de l'Est, et c'est bien la division du monde en deux blocs hostiles qui détermina les États-Unis à la faire passer si vite du statut d'ennemi à celui de puissance amie, du rang de paria à celui de partenaire. Très indirectement, la renaissance rapide de la RFA est une retombée de la Révolution russe. Et, une fois encore, la guerre ne mit nullement un terme à la concurrence entre puissances impérialistes européennes, concurrence relancée et exacerbée au contraire. Seulement, leur bourgeoisie commençait à entrevoir que, pour ne pas être balayée par les deux géants, États-Unis et URSS, il fallait trouver le moyen de s'associer et se donner un marché plus vaste, d'où les premiers traités de coopération économique. D'emblée, avec un stock de capital industriel très neuf, moins de 10 ans d'âge, notamment grâce aux États-Unis, la RFA reconstruisit un potentiel économique qui déjà reposait sur l'export. Les autres puissances européennes assumaient d'importantes dépenses militaires, notamment en raison des guerres coloniales. Le capitalisme allemand n'avait pas cette contrainte. Et surtout, avec l'arrivée, rien qu'entre 1945 et 1947, d'environ 13 millions de personnes, en majorité des femmes et des enfants, expulsées de Tchécoslovaquie, de Hongrie, du RSS ou de Pologne, où elles vivaient jusque-là, le capital allemand disposa d'un immense réservoir de main-d'œuvre, travailleuses affamées, déracinées, sans abri, contraintes par leur situation et par la pression sociale d'accepter de travailler dans les pires conditions pour des salaires de famine. Une raison fondamentale du redémarrage spectaculaire de l'économie allemande est bien la surexploitation après-guerre de l'ensemble de la classe ouvrière. La RFA a en partie retrouvé son hinterland. Aujourd'hui, l'une des raisons de la supériorité de l'économie allemande est son implantation dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il y a à cela des raisons géographiques. Berlin est située plus près de Lviv, appelé Lemberg en allemand, du temps de l'Empire austro-hongrois, grande ville de l'Ukraine occidentale, que de Paris. Et des raisons historiques. Dès 1970, 20 ans après la partition de l'Allemagne et 20 ans avant la chute du rideau de fer qui divisait l'Europe, les sociaux-démocrates arrivés au pouvoir engagèrent le virage de l'Ostpolitik, politique vers l'Est, visant à un rapprochement économique avec l'Union soviétique et les démocraties populaires. N'en déplaise à l'indignation feinte d'hommes politiques conservateurs, l'ensemble de la bourgeoisie ouest-allemande souhaitait cette orientation. Le commerce et les échanges entre les deux Allemagnes se développèrent considérablement, ce qui commença à miner le rideau de fer et mit la bourgeoisie ouest-allemande en bien meilleure position que ses homologues vis-à-vis de la Pologne, de la Hongrie, de l'ensemble des pays de l'Est, dont les économies étaient étroitement liées à celles de l'Allemagne de l'Est. Du coup, lorsque le mur qui mutilait l'Europe s'effondra, la bourgeoisie allemande avait pris de l'avance, ayant gagné une influence économique dans toute l'Europe de l'Est et étant prête à retrouver son hinterland, arrière-pays, traditionnel. Car dès le début du XXe siècle, le capital financier allemand s'était emparé d'une partie de ces régions, Slovénie, pays baltes, y compris dans ses prolongements orientaux vers l'Empire ottoman. La séparation n'avait finalement duré que 40 ans, 1949-1989, et ne fut pas longtemps complète. Les liens individuels, commerciaux, sociaux, par lesquels les relations d'affaires passent aussi, pouvaient se renouer. L'Allemagne, située jusqu'en 1989 à la périphérie de l'Europe occidentale, était placée désormais au centre de l'Europe, au carrefour des échanges routiers, fluviaux, maritimes. Le réseau autoroutier fut développé en ex-RDA et vers l'Est, et avec son réseau ferré et ses trois axes navigables, le Rhin est le premier fleuve mondial pour le fret, l'économie allemande dispose d'un réseau de communication de grande qualité. Hambourg a connu une montée en puissance qui en fait le deuxième ou troisième port commercial d'Europe avec ses millions de conteneurs qui, de là, rejoignent l'Europe du Nord et la Russie par de petits navires, et l'Europe centrale et orientale par chemin de fer. Le changement de situation géographique fut perceptible dans le pays, par exemple sur le marché des voitures d'occasion, celles-ci y étant à la fois proches, fiables et relativement moins chères, toute une partie de l'Europe orientale vint s'y équiper après 1990, ce qui permit à nombre de familles de RFA de s'équiper en voitures neuves. En outre, le pays continua naturellement à bénéficier des relations entre l'Allemagne de l'Est et les anciennes démocraties populaires, dont toutes les économies avaient été intégrées. Cela lui donna enfin un avantage pour développer des relations avec l'ex-Union soviétique et notamment la Russie, d'autant que les habitants de RDA maîtrisaient souvent la langue russe. Ainsi, les capitalistes ouest-allemands surent-ils reprendre pied en ex-RDA et dans les pays de l'Est. Quelle aubaine! Dans ces pays pauvres, L'industrie n'avait pas à être construite, elle existait déjà, tout comme les infrastructures. Et la population travailleuse possédait un niveau d'éducation, de culture et de formation très élevé. Les capitalistes n'y allèrent guère pour apporter des capitaux. Souvent, ils achetèrent uniquement les ateliers les plus rentables, voire des usines à prix cassé pour les fermer aussitôt, histoire d'éliminer un concurrent. Le capital allemand, après avoir racheté une bonne partie des usines et des banques d'Europe de l'Est, y est aujourd'hui le premier investisseur. Il est très présent dans l'automobile, y compris les sous-traitants, au point que les constructeurs allemands assurent la majorité de leur production dans plusieurs de ces pays. Les exportations allemandes concernent, outre l'automobile, les matériels électroniques, les machines et machines-outils, la métallurgie et la chimie. L'Allemagne est de loin le premier exportateur vers la République tchèque, et c'est vrai pour chacun des secteurs cités. Quant à l'ex-Union soviétique, les fondements économiques et sociaux hérités de la révolution d'octobre 1917, en un mot, le régime de propriété des moyens de production, en firent une proie beaucoup moins facile pour les appétits des capitalistes. Cependant, le marché était suffisamment juteux pour les inciter à la patience. Ainsi, il a fallu attendre l'été 2013 pour que Daimler se risque à produire en Russie, avec le spécialiste russe du secteur, des vannes de Mercedes. Daimler envisage maintenant une usine de production de voitures. Avec le temps, les Allemands sont devenus en Russie aussi parmi les premiers partenaires. L'Allemagne achète à ce pays un tiers de son gaz et de son pétrole. À l'inverse, plus de 6000 entreprises à capitaux allemands opèrent en Russie et nombre d'autres y exportent dans les branches déjà citées pour lesquelles l'Allemagne est traditionnellement en pointe avec, en plus, dans le domaine de la construction mécanique, installations et machines de forage, pompes sophistiquées, machines-outils et technologies de pointe afférentes. Depuis l'an 2000, les exportations allemandes vers la Russie ont plus que quintuplé, représentant un volume de 36,1 milliards d'euros en 2013. Fin 2012, le montant des investissements allemands directs dans l'économie russe s'élevait à 23 milliards. Cette proximité explique que dans la crise ukrainienne, le ton des milieux dirigeants vis-à-vis de la Russie ne soit pas tout à fait le même qu'en France. Le patron de Siemens, Joe Kaeser, a suscité la polémique par sa visite amicale à Vladimir Poutine à un moment où la tension était particulièrement vive, tandis que l'ancien chancelier Gerhard Schröder, SPD, choisissait d'aller fêter son anniversaire en Russie avec son ami Poutine, des photos circulant de leur étreinte appuyée. Schröder, pris à partie, déclara que, ouvrez les guillemets, « même en y regardant à la loupe, Poutine est un démocrate sans tache ». Fermez les guillemets. Cependant, l'opinion non plus n'est pas exactement la même qu'en France, puisqu'en RFA, plusieurs millions de personnes sont russophones, originaires en particulier des anciennes républiques soviétiques. Des créneaux hautement technologiques. L'ouverture vers l'Est a donc constitué un atout incontestable pour l'économie allemande, lui permettant de retrouver sa position dominante face aux anciennes puissances coloniales. Mais fondamentalement, son avance lui vient aussi de certains créneaux hautement technologiques. Sa dynamique d'exportation repose sur quelques branches, l'industrie automobile, la chimie et la pharmacie, Bayer, BASF, Hoechst, la construction mécanique, ThyssenKrupp, Mannesmann, Mann, l'électrotechnique, Siemens. Ces produits s'exportent non en raison de leur prix, mais malgré eux et en raison de leur qualité et de l'innovation qu'ils contiennent. Le secteur automobile est à cet égard particulièrement parlant. Les constructeurs Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Porsche, Opel réalisent pas moins de 40% des exportations allemandes. Or, il s'agit en grande partie de haut de gamme, avec des clients qui payent pour accéder à un certain niveau de qualité et de confort. Notons au passage que, dans les pays émergents, on retrouve les mêmes trusts allemands qui, en Chine, représentent un tiers de la production automobile. Autre exemple, dans les chemins de fer, Siemens et Alstom étaient en concurrence pour la construction du train à grande vitesse de Russie, dont le premier tronçon relie les deux capitales. C'est Siemens qui a remporté le marché pour cette ligne de prestige, succès qui lui en ouvrira certainement d'autres. Dans les airs, Lufthansa pilote la première alliance de compagnies aériennes au monde, Star Alliance. Tout cela ne signifie cependant pas qu'il n'y aurait plus de concurrence. Si Star Alliance est numéro 1, SkyTeam, auquel appartient Air France, se place en numéro 2, de même que Renault demeure, en termes de volume, dans les premiers rangs des classements automobiles internationaux. La concurrence entre les grandes entreprises continue de faire rage. L'Allemagne est loin d'avaler tout en Europe. Reste qu'elle a un avantage, lié aussi à la réputation de qualité technologique de ses produits. Et la classe ouvrière. L'économie se porte mieux actuellement en Allemagne qu'ailleurs en Europe. Le pays est, selon les années, premier ou deuxième exportateur du monde. Les millionnaires et milliardaires ont vu leur nombre et leur fortune s'accroître toutes ces années. Cela est loin pourtant de profiter à la classe ouvrière du pays, tant l'enrichissement de la bourgeoisie repose d'abord sur son exploitation accrue. Les commentateurs, qui vantent le bas niveau de chômage en Allemagne, taisent le fait que depuis 10 ans et les lois Hartz, plusieurs millions d'ouvriers, souvent des ouvrières, qui travaillent moins de 15 heures par semaine, ne sont plus comptabilisés comme chômeurs. Il en va de même des précaires. La classe ouvrière de RFA, qui dans les années 1970 et 1980 paraissait relativement favorisée, n'a pas cessé depuis 1990 de voir ses conditions de vie et de travail reculer. En 2009, les travailleurs pauvres représentaient 20% de la population active. En définitive, quand les hommes politiques d'ici nous parlent de l'Allemagne, de son économie ou de sa compétitivité, ce qu'ils nous proposent comme modèle, c'est de nous serrer la ceinture pour le plus grand bien des capitalistes français. Les travailleurs d'Allemagne, qu'ils soient originaires de Turquie, de Russie, de Pologne ou encore installés en Allemagne depuis des générations, ne font pas partie de leurs préoccupations. Aux révolutionnaires de faire vivre l'opposé, la conscience internationaliste, le sentiment que, par-delà les frontières, nous appartenons à une seule classe ouvrière, partageant des intérêts communs et détenant ensemble la clé de l'avenir.